Erev Tov, bonsoir, shalom tout le monde. On est dans, si je ne me trompe, dans Sanhedrin Tzadik Zayin Amoud Alef. Alors là, il faut compter à partir du haut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 lignes. Tania Rabbi Yehuda Omer. Hein? Oui, 19 lignes. Ouais, si je vous change la lentille, là, vous voyez bien. Ouais, bon. Tania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda disait, on est justement dans toutes les agadotes qui concernent l'avenue du Mashiach. Les temps messianiques. Les temps messianiques. Dor chez Ben David Babo, la génération où le fils de David doit venir. Alors, nous avons ici toute une liste de choses qui doivent se produire. Bet Avad yé l'iznout. C'est quoi Bet Avad? Non, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Makom chez Talmidei Chachamim mitvaadim sham l'ilmot Torah. Le lieu où les rabbins se réunissent pour étudier la Torah.
Talmidei Chachamim.
Oui, c'est un rabbin. Oui, c'est un rabbin. Talmidei Chachamim, c'est quoi? C'est un rab. Talmidei Chachamim, quoi. Ils se réunissent là-bas pour étudier la Torah.
Yeshiva.
Ou la Yeshiva, ou la Rabbanout, en tout cas. Ça deviendra Znout. Bizarre. Alors, soit ça veut dire que la Yeshiva sera désaffectée et transformée en lieu de Znout, mais. A priori, ce n'est pas si important que ça. Il arrive qu'un bâtiment soit désaffecté. Mais ce que ça me semble dire, c'est que l'institution même deviendra une forme de znout. C'est quoi la znout, la prostitution? C'est se vendre. C'est se vendre. C'est écrit. D'accord? Il viendra un temps où donc l'institution rabbinique se vendra. Ben, disons qu'elle sera achetable. Et une raison très simple d'ailleurs à cela. Vous savez que d'après le Rambam, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent parce qu'on étudie la Torah. Pour des tas de raisons qui nous prendraient beaucoup de temps à exposer, aujourd'hui, cette chose a été autorisée, contrairement à l'opinion du Rambam. Comment ? Oui, c'est ça. C'est contraire à l'opinion du Rambam. Le Rambam dit que c'est... Comment ? Rabbi Yosef Karo, oui, est une des sources là-dedans, mais enfin, Rabbi Yosef Karo, c'est pas si évident que ça. D'abord, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que Rabbi Yosef Karo dit que c'est uniquement pour les rabbins, pas pour les élèves. Deuxièmement, Rabbi Yosef Karo, après avoir amené toutes les objections possibles contre l'opinion du Rambam, dit que le Rambam a peut-être quand même raison. Il le dit, en toute lettre. Il a peut-être quand même raison, mais on l'a fait parce que et la sot la chem et feru Torah Techa. C'est ce que dit. Je fais que tu as cité Rabbi Yosef Karo. Alors, je dis, Rabbi Yosef Karo, il dit. C'est peut-être contraire à la halakha, malgré toutes mes preuves. Peut-être que le Rambam a quand même raison, mais être la sot la chem et feru Torah Techa. Alors peut-être qu'on avait des bonnes raisons de l'autoriser, je ne sais pas. Mais en tout cas, les conséquences que ça a entraîné, ça le Rambam a dit tout de suite, que ça entraîne le bizyon à Torah, le mépris de la Torah. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que lorsqu'il est question de prendre des décisions politiques, la Torah n'a plus la force qu'elle pouvait avoir. Tout simplement parce que si un groupement, parlementaire à chapeau affirme, déclare qu'il est interdit, par exemple, qu'on ne vote pas on sort du gouvernement si on sort de Gouche Katif, par exemple, eh bien, les responsables rabbiniques de tout ce cibourg savent très bien à l'avance que le lendemain matin, il y a 40 000 personnes qui n'ont pas de quoi manger. Donc c'est achetable. D'accord? C'est-à-dire, il y a des situations de ce genre. Bet Avad yé l'iznout. Et ça, c'est vérifiable sur le terrain. Donc il semble que, sur le terrain, le Rambam n'avait peut-être pas si tort que ça. En tout cas, le fait qu'on se fait acheter, on vous donne. Bon. Ve à Galil.
Dans le texte, il y a deux fois Vav. Et dans le Rashi, il y a une seule fois. Il n'y a pas de raison, non? C'est stable.
Non, ça n'a plus rien. Ve à Galil, yé Hérav. La Galilée sera désertée, détruite. C'est où ça, le Galil?
Avant le Golan.
Le Galil, c'est le sud Liban. Depuis le Litani jusqu'à Afoula. Alors, la moitié, effectivement, est en dehors de nos frontières, et l'autre moitié qui est dans nos frontières est aujourd'hui surpeuplée de non-juifs. Quand on dit donc à Galil Yahirab, on le voit se réaliser. Vers Gavlan, ou bien vers Golan, ça dépend des versions, enfin, Gavlan, ça veut dire le Golan, Yeshom, ou bien Yishom, sera en désolation. C'est absolument le cas. 80% de la superficie du Golan aujourd'hui est inhabitée. Elle sert de terrain militaire et elle n'est pas peuplée pour des raisons politiques. C'est gardé comme une option. Il n'y a que dans le sud du Golan qu'il y a une implantation plus ou moins sérieuse. Et tous les gouvernements israéliens, depuis la guerre des six jours, n'ont rien fait pour peupler en masse le Golan. Le Golan est aujourd'hui désolé.
Au niveau de la culture, ça compte comme habitation ou pas?
Quoi?
Quand il y a de l'agriculture.
Il y a l'agriculture, mais c'est infime. Même d'ailleurs, les Moshavim du Golan ont beaucoup de leur terrain dans la région de Tibériade. Ve'anshe Gevul. Alors là, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ve'anshe Gevul yesovevu me'ir le'ir ve'lo yachonan. Les habitants des marches frontières tourneront de ville en ville et ne seront pas pris en grâce. C'est-à-dire, ils vont quitter leur lieu d'habitation, les gens des frontières, des régions frontalières. Pour quelles raisons ils vont devoir quitter et partir de ville en ville, ce n'est pas écrit. Qu'ils ne seront pas pris en pitié, ça, on le voit. N'est-ce pas? Intéressant quand même cette Guémara. Bon. Il y a également une autre interprétation qu'on trouve ailleurs, c'est que c'est quoi les Anshe Gevul? Elu Talmide Hachamim. Ce sont des sages. Pourquoi ce sont des Talmide Hachamim qu'on appelle les hommes des frontières? Parce que, dit la Gemara dans Sota, Samim Gevul les Divrehem. Ils mettent des limites dans leurs paroles. C'est-à-dire, l'enseignement des Hachamim, c'est justement de mettre les frontières. De dire ça c'est permis, ça c'est interdit. Mais vient un temps où il y a un refus de ces frontières. C'est-à-dire, les rabbins sont rejetés. Il y a des raisons à cela. Ce qu'on appelle aujourd'hui la chilonout. La chilonout vient d'un refus du Shulchan Aruch en tant qu'élément constituant d'identité juive. Alors que le Tanakh est volontiers accepté, le Shulchan Aruch est refusé. Le Rav Kook explique dans Oroth qu'il y a en fait deux dimensions dans l'identité collective, celle du klal et celle du prat. Le kelal, c'est-à-dire la vision collective des choses, c'est la capacité des prophètes. Rentrer dans le détail, les pratim, ça c'est la capacité des chachamim. Au temps des prophètes, eh bien, c'est le prophétisme qui l'emportait. Une fois que les prophètes se sont tus, ce sont les Chachamim qui ont pris le devant de la scène. Et ils ont développé de manière extraordinaire le monde des détails au détriment de la vision collective des choses. En fin d'histoire, au moment du retour de la Galoute, vient un moment où le désir du retour à l'identité collective, en fait, un souffle de prophétie qui habite le subconscient collectif exige le retour du klal et ça entraîne au départ, ce qui se passe aujourd'hui, un refus du prat. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire une synthèse entre le prophétisme et le chachamisme. Mais une fois que ça sera réalisé, dit le Rav Kook, alors la neshama, l'âme de Moshe Rabbeinu reviendra sur terre. Parce que Moshe était le seul de tous les prophètes qui était capable de faire l'unité du klal et du prat. Donc on est dans une sorte de processus dialectique, de passage du prat au klal et du klal au prat, jusqu'à ce que se réalise la synthèse. En tout cas, donc c'est ça l'Anshe Gevul. Exactement. Le Shulchan Aruch me dit, voilà, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Il n'y a pas dans le Shulchan Aruch, ce qu'on pouvait en voir encore dans le Rambam, une vision collective des choses. Alors, quand le Rambam amène une série de halakhot, il commence d'abord par le principe. Après, il rentre dans le détail. Exemple tout bête, hein, pour la première halakha du Shulchan Aruch et la première halakha du Mishneh Torah. C'est quoi la première halakha du Mishneh Torah? La première halakha du Mishneh Torah, c'est quoi? Que Dieu existe. C'est ça? Dieu existe. C'est la première chose que dit Maïmonide. D'accord? Sachez, Dieu existe. Comment commence le Shulchan Aruch? Il faut se lever tôt pour servir son Dieu. C'est-à-dire, l'existence de Dieu est supposée connue, évidemment. Rabbi Yosef Karo était au courant. On a déjà étudié le Rambam. Mais vient un temps où on n'étudie plus le Rambam, on dit que le Shulchan Aruch. C'est, on rentre dans le détail. Ça, si vous voulez, c'est un exemple sur 100 000. D'accord? Par exemple, dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, il y a écrit quelles sont les règles dans quel cas on a le droit de manger dans un plat cuisiné par un goy et quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Il y a des règles comme ça dans le Shulchan Aruch. Il chod bishoulé nochri. Mais il n'y a pas écrit une seconde dans le Shulchan Aruch pourquoi c'est interdit. Dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, il explique les Chachamim ont voulu empêcher l'assimilation et donc ils ont interdit les bishoulé goy. Après, il rentre dans le détail. C'est très important ce point-là. Parce que si on oublie le fondement théorique des choses, eh bien, après, les détails deviennent étouffants. À tel point qu'on peut même tordre la halakha. Par exemple, on n'a pas le droit, il y a une interdiction dans la Torah qui est l'otechonem. On n'a pas le droit d'abandonner notre terre à des goïms. L'otechonem. C'est la raison pour laquelle une partie du public religieux refuse ce qu'on appelle le éther à Mechirav dans la Shemitah, c'est-à-dire que l'on vende les terres à des Arabes pour pouvoir permettre de continuer l'agriculture, ce qui a été autorisé par de très grands rabbinim. Mais enfin, il y en a qui disent non, on ne peut pas, on n'a pas le droit, l'Oter Honem. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Acheter chez les Arabes. Ce qui est l'Oter Honem puissance N, exponentielle. C'est-à-dire renforcer donc l'agriculture des Arabes, ça c'est pas l'Oter Honem, c'est complètement tordu. En fait, ça dit une sorte de judaïsme qui se préoccuperait plus de ce qui se passe dans son assiette que de ce qui se passe dans l'assiette collective.
Mais si vous avez dit que la Chidouche, elle refuse le Shulchan Aruch.
Oui, elle refuse le Shulchan Aruch. Non, c'est pas bien de refuser le Shulchan Aruch.
Elle refuse le Shulchan Aruch sans accepter quand même les principes du
clan. Si, elle accepte le principe du clan, justement. Elle refuse le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que, vous devez comprendre, le renouveau sioniste a été associé à un retour à la Bible. Il y a une sorte de romantisme biblique qui s'est développé chez les premiers sionistes, chez les pionniers, l'école de Bezalel en art, etc. Il y a eu cette espérance d'un nouveau souffle qui renouait avec l'Antiquité. Un exemple de ça, par exemple, Ben Gurion a imposé, de son temps, quand il était ministre de la guerre, que tout officier, à partir d'un certain grade, ait un nom hébraïque. Mais attention, un nom de famille hébraïque, mais pas n'importe quoi. Un nom hébraïque biblique. Mais pas un nom hébraïque de l'époque de la Mishnah. Il y a eu tout un débat à la Knesset à ce propos. C'est-à-dire, Bar Korva, on ne peut pas s'appeler. On peut s'appeler, on peut s'appeler Aplishti, ça oui. Goliath Aplishti, ça on a le droit. Mais on n'a pas le droit de s'appeler Bar Korva.
Nimrod,
ça va. Nimrod, ça va. Mais vous voyez, c'est-à-dire, il y avait effectivement, de manière très consciente, cette idée que le rabbinisme a diminué l'âme collective et donc on a voulu le rejeter. Alors, c'est en soi. Alors, ça vient de quelque chose de positif, mais le résultat est négatif. On n'a pas le droit de refuser le Shulchan Aruch, je crois. Simplement, il faut rétablir ce qui, à l'origine, chez Moshe Rabbeinu, était unifié, le klal et le prat. D'accord? Tout ça, c'était pour Anshei Hagvul. Les hommes des frontières. C'est ça? Bon. Revenons donc à.
Juste une question. Oui. Juste bête à Vahad. Rachid met 50 mots. Makom, Chetamid, Racham, Ilvadim, Lilmot, Tamot, Torah.
50 mots, non. Makom, Chetamid, Racham, Ilvadim, Sham, Lilmot, Torah.
Il ne peut pas dire Yeshiva. Il ne connaît pas ce mot-là. Ça n'existait pas à son époque.
Bien sûr qu'il connaissait le mot Yeshiva.
Alors?
Donc c'est pas la Yeshiva.
Donc c'est pas la Yeshiva.
C'est l'institution.
Il connaît pas, il n'y a pas un mot qui veut dire.
Attention, c'était quoi le Betavad à l'époque de la Gemara? C'est quelque chose qui existait, le Betavad. Pourquoi est-ce que la Gemara ne dit pas Yeshiva?
Pourquoi Rachid nous l'explique si tout le monde le connaît?
Pourquoi est-ce que la Gemara ne dit pas Yeshiva?
Parce que c'est pas la
le mot yeshiva existait dans de la Gemara. Ouais. D'accord. Bon. Alors, s'il y a écrit betavat, c'est autre chose.
Oui, mais la définition de Rashi ressemble beaucoup à une yeshiva.
Oui, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement ça. Parce que le Bet Avad, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, c'était le lieu où le Sanhedrin se réunissait. C'est-à-dire, ou bien, ou le Sanhedrin, ou en tout cas, les dirigeants spirituels du peuple.
C'est la Rabbanout, plutôt.
C'est la Rabbanout, voilà. C'est ça que ça veut dire.
Et ça n'existait pas à l'époque, la Rabbanout. Le mot Rabbanout existait.
Non, le mot Rabbanout voulait dire autre chose. Le mot Rabbanout voulait dire le pouvoir. Le pouvoir politique s'appelait Rabbanout aussi. D'accord. Mais Bet Avad, ça existait. Par exemple, le Kiddush HaChodesh, quand on voulait annoncer Rosh Chodesh, ça se faisait au Bet Avad. D'accord. Le Bet Avad a existé jusqu'à l'époque des croisés, en Eretz Israël. Il y a eu, de tout temps, jusqu'à l'époque des croisés, il y avait ce qu'on appelait le Bet Avad, là où se réunissaient les Chachamim d'Eretz Israël. D'accord. Souvent, c'était le Sanhedrin, mais ce n'était pas toujours le Sanhedrin. D'accord. Bon. Vechochmat Sofrim Tisrah. La sagesse des sages sera nauséabonde, sentira mauvais. Tisrah. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura un problème dans la sagesse des sages. Ça, c'est la Guémara qui le dit. Aïe. C'est quoi ce problème-là? Le Zohar explique que la raison pour laquelle, à la fin de l'histoire, la Chochmat Sofrim Tisrach, la sagesse des sages, tombera en pourriture, c'est parce que l'on a autorisé des règles qui disent, certaines règles à cause de Kinat Sofrim Tarbe Chochma. De quoi s'agit-il? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, s'il y a un magasin dans ma rue, j'habite dans un petit quartier, il y a un magasin dans lequel on vend des produits ménagers. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir dans la même rue, en face à face, un autre magasin de produits ménagers? La réponse, je n'ai pas le droit. Mais si c'est une école, j'ai le droit. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai quelqu'un dans la rue a ouvert un petit Talmud Torah, il y a des élèves, ils sont tout contents, ils étudient la Torah, moi, j'ouvre en face une autre école de ce genre. Et non seulement je le fais, mais je chipe les profs, je leur donne une meilleure mascorée, des meilleures conditions, etc. J'ai le droit ou pas? Eh bien, la halakha est qu'on a le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, kinat sofrim tarbe chokhma. La jalousie des maîtres va engendrer la sagesse. Parce que chacun va essayer de prouver qu'il est meilleur. Et finalement, qui c'est qui va gagner? L'étude. D'accord? Le Zohar dit, c'est parce qu'on a autorisé cela qu'à la fin des temps, il y a un prix à payer. Kinat sofrim tarbe chokhma. Chokhmat sofrim tisrach. C'est-à-dire, c'est pas que la halakha n'est pas vraie. La halakha est vraie. Mais elle a autorisé quelque chose qui fait une petite entorse à la morale. Eh bien, il y a un prix à payer. À la fin de l'histoire, il faut le payer. Eh bien, c'est que la chokhma des sages tombera en pourriture. Eh bien, c'est une sorte de... C'est-à-dire, parce que c'est plus qu'une punition. C'est-à-dire que quelque chose, même de bien, qui a un fondement, qui n'est pas totalement moral, ne peut pas tenir. Alors, peut-être que c'était nécessaire. Ça a été nécessaire pour 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Mais après, il faut payer.
C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on n'a plus qui que ce soit sur qui se raccrocher. Parce que même les sages...
Oui, parce qu'on a dit d'ailleurs dans le texte de la semaine dernière. Je sais que vous n'étiez pas là. Je le savais à l'avance.
C'est pas, bon. C'est pas une image un peu pessimiste?
C'est très pessimiste. Hein? Oui, mais est-ce que tu étais au cours de la semaine dernière? Toi, tu m'as pas annoncé. Tu n'étais pas là au cours de la semaine dernière. On a expliqué pourquoi.
Il y a eu cours, ça?
Oui. D'après le Maharal de Prague, le principe est que... Pourquoi il se passe toutes ces choses-là à l'époque messianique? C'est parce que les Yemot HaMashiach, c'est un nouveau monde. Alors il y a une disparition de l'ancien pour construire le nouveau. C'est le principe He'ader Kodem La'avaya. Le vide, la privation vient avant l'existence, avant l'être. He'ader Kodem La'avaya. Donc il y a une décadence de ce qu'il y avait. C'est-à-dire tout ce sur quoi on pouvait s'appuyer fortement pendant tout le temps de la galoute s'effondre parce qu'on est en train de construire du nouveau. D'accord ? Les anarchistes adorent ce genre d'enseignement. Veyere ehet yima esu. Ceux qui craignent le péché seront méprisés. Oui ?
Est-ce que dans la loi, la règle ne doit pas être conforme à la loi ?
Eh bien, justement, là, on voit que non. Il y a eu une entrave qui a été, une entorse qui a été faite. Elle était autorisée, elle avait son sens, peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Mais il y a un prix à payer. Et d'ailleurs, parfois, il arrive qu'il y a des tas de choses qui sont très bien, mais qui sont basées sur un mensonge, sur un détournement de fonds, des tas de choses de ce genre. Oui, non, je sais bien. De manière générale, c'est comme ça. Mais il y a également des comportements. Par exemple, on s'est habitué à ce que, pour craindre Dieu, il faut être dénué de sagesse. On est arrivé à une sorte de situation comme ça, assez bizarre, où la sagesse et la crainte du ciel sont antithétiques. C'est pas vrai que c'est comme ça ? D'accord ? Ou bien que... Je vais raconter un truc absolument incroyable. Au XIXe siècle, il y avait en Israël, en Eretz Israël, un juif qui est connu pour avoir renouvelé l'hébreu, Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda avait des tas de projets dans la tête, pas seulement l'hébreu. Un jour, il défendait ce qu'on appelait la joie de vivre. Hein? La joie de vivre, Simchat HaChaim. Il a dit, il est très important que si le peuple juif revienne sur sa terre, qu'il revienne à la joie de vivre. Alors, il était un des premiers à avoir organisé des danses. Des danses à Ekron. C'était une moshava de l'époque. Il a organisé des danses. Au nom de quoi ? Ben, au nom de la joie de vivre. Réaction d'un journal religieux de Jérusalem, qui s'appelait Al-Levanon à l'époque. Im hafetzlo mar ben Yehuda besimchat achaim. Si monsieur ben Yehuda veut la joie de vivre, yelech lo parisa. Qu'il aille à Paris. C'est-à-dire, depuis quand est-ce qu'en Eretz Israël, on va faire de la joie de vivre? Ça va pas la tête. C'est une terre sainte.
Donc c'était pas très Bretzel.
Oui, justement. C'était pas très Bretzel. Ça veut dire qu'il y a parfois des valeurs qui, en vérité, ne devraient pas être opposées, qui, dans le concret, sont opposées. Alors ça entraîne, c'est un prix à payer, ça entraîne des décadences. Alors peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Peut-être qu'à l'époque de Ben Yehuda, pour être respectueux de la Torah, il fallait être triste. Je ne sais pas, peut-être que c'était un peu... Mais il faut savoir qu'un jour, ça se venge.
Peut-être que l'histoire de Ben Yehuda, c'était pas très...
Non, mais c'est pas ça ce qui... Attends.
Attends.
S'il y a un problème de tsniout, on peut dire, voilà, on est contre que ce soit sans tsniout. Mais le problème, là-bas, ce qui a été accusé, ce qui a été mis en question dans le texte...
C'est
la joie de vivre. C'est-à-dire, l'idée qu'il puisse y avoir de la simcha à Jérusalem, c'est quelque chose qui ne passe pas. D'ailleurs, il y a un chérem à Jérusalem qui interdit de jouer de la musique à Jérusalem, même dans les mariages. Vous savez, il y a un chérem comme ça à Jérusalem. D'accord ? Et c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, on se disait, Yafo, ça va, Tzfat, ça va, mais enfin, Yerushalayim, c'est plus simple.
D'accord ?
C'est pas seulement ça. Il y a des choses qui ont été accumulées à cause du Khorban. Et ça, c'est justifié. Mais ça crée une situation dans laquelle il y a une tendance à identifier la tristesse et la Kedusha. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que les forces de la vie se vengent contre ça, se révoltent contre ça. D'accord ? C'est une réalité sociologique. Bon, continuons. Ufne hador kifne kelev. Le visage de la génération sera comme le visage du chien. Bon, c'est quoi avoir une tête de chien ? Je sais pas, il y a des gens qui ont une tête de chien, c'est pas forcément des gens méchants. D'accord ? Vous avez vu, il y a des tas de gens comme ça qui ont une tête de chien. Souvent, d'ailleurs, des propriétaires de chiens ressemblent à leur chien. Vous avez remarqué ça ? Une vie de chien. Je sais pas, il écrit le visage. Alors, il y a plusieurs interprétations. Il y a une interprétation un peu humoristique. Il y avait un rabbin à Tunis, le Rav Boukhara. Vous avez entendu parler du Rav Boukhara ? Hein ? C'était le rabbin de la communauté livournaise, les Gornis. De Tunis. Ouais, le gratin, quoi, genre. Bon. Alors, ce n'est pas très juste d'accord au début. Ce que l'on passe sous silence, c'est la raison pour laquelle les Livournais sont arrivés à Tunis. Parce qu'ils n'avaient pas de travail. C'est ça la véritable raison. Enfin bon, par la suite, ils sont devenus riches. Bon. En tout cas, le Rav Boukhara, une fois dans sa synagogue, tout le monde se rasait là-bas. Tout le monde se rasait. Alors il a dit, c'est quoi Pnéador qui finit à Kélève ? Eh bien, il a dit, le chien n'a pas de moustache. Et alors, il fallait voir toute la synagogue. Ah, on fait comme ça. Bon, enfin, c'est une histoire que m'a raconté le Rav Getz. Mais en vérité, je pense qu'il faut aller dans le sens de ce que disent les autres commentateurs, c'est que le chien, quand on le frappe, quand on frappe le chien avec un bâton, il mord le bâton. Il ne voit pas celui qui le frappe. C'est-à-dire, il y a une courte vue. Il y a un problème, on va le régler sur le plan local. On ne cherchera pas la racine des problèmes. Autre interprétation, encore plus plausible, c'est que quand un chien marche, il marche devant son maître, comme s'il était celui qui dirige son maître. Mais il arrive à une croisée de chemin, il attend que son maître arrive. C'est-à-dire que c'est une génération qui ne sait pas où aller. Dans le sens panim, dans le sens de direction. Ve'ahemet ne'ederet. Et la vérité est absente. Alors ça veut dire quoi, absente? She'ne'emar vatehi ha'emet ne'ederet. Vesar mera mishtolel. Alors c'est quoi? Maï vatia emet ne'aideret, amre de verav, chez Rav on enseignait, melamed, shena aset, adarim, adarim veolechet la. Ça veut dire que la vérité se disperse en troupeaux. Na aset, adarim, adarim veolechet la. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il y a différents groupes, il y a des parties, il y a des secteurs. La vérité devient sectorielle, et donc chacun porte en lui une parcelle de la vérité et ne la partage pas avec les autres. Ce qui fait que chacun a une intuition qui est juste, mais elle est partielle. Et il n'y a pas de dialogue entre les différentes parties du peuple. Donc la vérité devient Adarim, Adarim, Veolechetla. C'est un verset dans Yeshayahu. Au chapitre 59. Suite du verset. Maï vesar mera mishtollel. Celui qui s'éloigne du mal est consterné. Amre de Berabishela. Chez Rabishela, on a enseigné. Kol mishe sar mera mishtollel à la briote. Tout celui qui s'éloigne du mal est considéré comme fou par les autres. D'accord? Voilà, bon, c'est une belle situation qui est bien décrite. Maintenant, tout le problème est de savoir, qu'est-ce que veut dire la Guémara avec cette suite de malheurs? Est-ce que ça veut dire, une première approche qui est possible, qui dirait, ça ira tellement mal qu'il n'y aura pas le choix, il faudra le Mashiach. Il y a ce qu'on appelle la politique du pire. Ça va très mal, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, si c'est comme ça, il faut amener le Mashiach. Il y a un sticker comme ça. Apitaron, Ayachid, Mashiach ben David. La seule solution, c'est d'amener le Mashiach. Oui. Ça doit aller encore pire, oui. Et pourquoi ça doit aller encore pire? Ah, alors c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est déjà un peu plus positif. Ça veut dire qu'il y aurait un rôle effectif, un rôle positif à cette chute. N'est-ce pas? Alors ça, effectivement, c'est digne de l'enseignement du Horachai, mais il faut approfondir ce que dit le Horachai. Parce que ce que veut dire le Horachai, on s'en fait beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est ce qu'explique également le Rav Kook. C'est que ce qu'on appelle le birour du mal, c'est parce qu'il y a des dimensions de la réalité, des dimensions de la vérité qui ne se trouvent actuellement que dans le mal. Et donc elles exigent leur place au soleil, ces dimensions-là, ces nitsotsot, comme on dit, ces étincelles. Donc il faut passer par une révolution des valeurs qui passe justement par qui est produite par ces étincelles de Kedusha qui exigent leur présence. Alors évidemment, ça peut aller trop loin, ça. Parce que si on va jusqu'au bout de cette pensée, eh bien on arrive aux conclusions de Shabtai Tzvi. N'est-ce pas? Quelles étaient les conclusions de Shabtai Tzvi? Étant donné qu'il faut libérer les Nitzotzot de Kedusha qui sont enfouis dans les Klipot, alors il faut faire le mal. Il faut faire des Averot, a priori, pour aller se mettre à la... pour que le tzaddik fasse des Averot, pour rechercher là-bas les... Oui, sinon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Non seulement il l'a dit, mais il a entraîné des gens avec lui dans cette idée-là. Il l'a fait. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'on peut, si on continue ce genre de réflexion, on pourrait donc dire une sorte de légitimation du mal. N'est-ce pas? C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le Rav Kook a été accusé de sabbatianisme. Oui, on l'a accusé de ça parce qu'on dit, mais enfin, quand même, tu expliques des processus qui se passent à travers la kfira, à travers les chilonimes, à travers des tas de choses horribles, etc. Tu dis, à travers ça, la lumière de la Géoula est montante, de là à t'entendre, et bien on comprend qu'il faut faire le mal. N'est-ce pas? Oui. Je sais bien que dans, je ne pense pas une seconde que le Or HaChaim avait les opinions de Shabtai Tzvi. D'accord? Ni que le Rav Kook d'ailleurs les avait. Je ne pense pas. N'est-ce pas? J'en suis persuadé d'ailleurs, même du contraire. Le problème est de comprendre pourquoi c'est pas comme ça. C'est-à-dire parce que si on va dans cette logique-là jusqu'au bout, alors effectivement, ça donnerait raison à cette école qui a pensé qu'il fallait faire le mal pour aller amener les Nitzotzot. Et donc mon objet là présentement, c'est d'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. D'accord? C'est-à-dire pour bien comprendre une pensée, il faut d'abord aller jusqu'aux extrémités de la pensée et après comprendre pourquoi on se détache de ces extrémités.
Peut-être une petite réflexion. Si on voit qu'il faut tout ce mal pour que les gens veuillent le Mashiach, peut-être qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'était Mashiach. C'est-à-dire, si tout se passe bien, si on a un gouvernement, si on a le Galil, si on a le Golan, si on a toutes les rats d'Israël, personne ne voudra Mashiach, ça veut dire ça?
Non, non, justement, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation.
Non, non. Parce que tout aille mal pour qu'on ait Mashiach.
Non, je ne pense pas que ce soit ça.
Mashiach, c'est celui qui veut tout
en. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que la Guémara joue la politique. Je ne pense pas que la Guémara joue la politique du pire. C'est-à-dire, ça ira tellement mal que vous verrez bien, vous serez bien obligé de demander le Mashiach. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien peut-être pour la génération qui est sortie d'Égypte. La génération qui est sortie d'Égypte était tellement basse qu'il fallait qu'elle en arrive très bas pour pouvoir prier et demander à Kadosh Baruch Hu de les faire sortir. Ça, je veux bien. Mais la, comment?
Il y a une autre Guémara qui a ramené la même histoire.
Oui. Oui, c'est bon. Non, mais je vais expliquer cette Mishnah-là. Ça va pas, non? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que ce que dit la Mishnah là-bas dans Maseret Sota, il faut bien voir comment c'est écrit. La Mishnah dans Maseret Sota fait une liste de malheurs qui se sont accumulés avec, depuis la destruction du Temple. Conclusion de la Mishnah. Almi eshtanu leishen alavinu shel vashamayim. Qu'est-ce qui nous reste sur quoi on peut s'appuyer? Sur notre Père qui est au ciel. Et puis après, la Mishnah continue avec une autre liste. Encore pire. Et après, il dit Alma Yeshanu Yishen. Après, encore une troisième fois, Alma Yeshanu Yishen. Le Rav Goren expliquait pourquoi est-ce qu'il y a à nouveau des malheurs? Parce qu'au lieu de faire quelque chose, on disait Almi Yeshanu Yishen à la Vinu Shebashamay. D'accord? C'est, alors qu'on pourrait faire quelque chose pour régler la situation, on dit non, on attend que deux jours. D'accord? C'est ça le problème. Mais pour revenir donc à ce que je disais, la génération de l'époque messianique est une génération avec des neshamot gigantesques, d'après les enseignements des kabbalistes. Donc on ne peut pas comprendre la décadence spirituelle et politique, etc., dont il est question dans ces textes-là, comme étant simplement une chute. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Il y a une recherche. C'est ce qu'on appelle la chutzpah d'Ikuta d'Imshirad. On avait expliqué, je crois, on verra par la suite le mot chutzpah qui apparaît. Ça, il y a une sorte d'effronterie qui se manifeste à l'époque messianique et qui, elle, a un sens, certainement. Elle exprime quelque chose de très profond qui est enfoui dans l'âme d'Israël et qui ne peut s'exprimer que par la chutzpah. Et c'est quoi? Eh bien justement, c'est le refus d'une appréhension petite de la Kedusha. C'est-à-dire il y a une exigence de totalité. Alors, toutes les personnes qui ont des exigences de totalité ne sont pas capables de composer avec le relatif. Ah, donc, il se révolte. Je vous donne un exemple très simple de ça. Il y avait dans notre famille, il y a très longtemps, un certain Esav, le frère de Yaakov. Esav n'était pas n'importe qui. La Torah dit que c'était Bena Hagadol et Beno Hagadol pour Yitzhak et Rivka. C'est pas n'importe qui, Esav. Esav posait des questions, n'est-ce pas? Quelles étaient les questions que posait Esav? Comment est-ce qu'on fait le prélèvement du maaser sur la paille et le sel? Le sel et la paille, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Parce qu'il voulait voir où est-ce qu'il y a de la kedusha. Parce que quand on fait le maaser, il y a quelque chose qui est kodesh qui apparaît. Avant c'est tevel, après ça devient kodesh. Et donc il se demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas découvrir la sainteté qu'il y a dans le sel et dans la paille. La raison, c'est parce que le sel, c'est trop loin de la vie. Et la paille, c'est un résidu, c'est un déchet. Et l'exigence de Esav, c'est que la sainteté se manifeste en tout. Mais il pose à cela, il tire de cela une conséquence. Si je ne suis pas capable de comprendre comment révéler la sainteté dans le sel et la paille, alors je ne veux pas de sainteté du tout. C'est ou tout ou rien. C'est un homme absolu. En ce sens, il plaît à Yitzhak. Yitzhak Avinu aimait beaucoup Esav. Mais il y a une différence entre Yitzhak et Esav. C'est que Yitzhak se disait, si je ne suis pas capable de faire le maaser du sel et de la paille, pour l'instant je ferai au moins du vin, de l'huile et des céréales. Dagan Tirosh Yitzhak. Tandis que Esav dit, c'est ou tout ou rien. Pas de patience. Il y a des générations impatientes. D'accord ? Parce qu'elles ont une puissance très forte en elles et qui veut se manifester. Ça, c'est, si vous voulez, c'est un sujet d'étude. Il faudrait étudier toute une série de textes du Rav Kook autour de ça, qui expliquent le sens de ce genre de comportement.
L'avenue du Mashiach, c'est pas aussi, ça rentre pas dans la loi de tout ou rien ?
L'avenue du Mashiach. C'est quoi l'avenue du Mashiach ?
L'idée de l'avenue du Mashiach.
Ben, c'est quoi le messianisme ? Alors justement, si on prend le messianisme sous forme de Merlin l'enchanteur, alors évidemment, ça correspond à la conception mythique du messianisme. C'est la conception d'ailleurs chrétienne. C'est-à-dire, tout va mal, il n'y a qu'un élément de l'extérieur qui peut venir. À la limite, il faut un extérieur absolu. C'est qui l'extérieur absolu ? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est la raison pour laquelle, pour le christianisme, il n'y a que Dieu qui peut être le Messie. Ça ne peut pas être un homme. Ça doit être un Dieu. Parce que sinon, ça ne marche pas. Tandis que ce que nous appelons le messianisme dans la tradition d'Israël, c'est justement la certitude qu'il y a assez de données dans l'histoire des hommes pour amener à un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle Maïmonide dit que le Mashiach ne fera pas de miracle. C'est-à-dire s'il ne fait pas de miracle, ça veut dire que toutes les données existent qui permettent d'amener un monde de bonheur, de perfection.
Donc, c'est pas, il y a marqué « Osénissim veniflaot », ça ne marche pas.
Ah, Mashiach Osénissim, c'est n'importe quoi. En tout cas, ça ne correspond pas à l'enseignement de Maïmonide. C'est dans la Gemara. Alors, Rambam. Mashiach Osénissim. Non. Le Rambam dit en toutes lettres, ne t'imagine pas que le Mashiach fera des miracles. Il rajoute d'ailleurs un mot difficile, Kefish et Omri Matipshim, comme disent les bêtes. Ça a été censuré. Des éditions où ce n'est pas écrit. Mais Rambam, il l'a écrit, ça. Ne t'imagine pas que le Mashiach fera des miracles comme le pensent les idiots. Le Rambam, il ne sait pas lire la Gemara ?
Non, mais il écrit quand même que ce qu'il ne veut pas, il se bête.
Quoi, le Rambam ? Ah, ben il amène des preuves. Il dit la preuve, il dit c'est que Bar Korva, qui a été considéré comme Mashiach par Rabbi Akiva, n'a pas fait de miracle. Comment ?
Pas beaucoup, ils arrivent à battre les Romains.
C'est pas contre la nature. Ils étaient beaucoup d'ailleurs. Il faut savoir, puisque ils ont quand même tué, d'après les historiens, entre 1 million et 1 million de juifs à l'époque. Ça veut donc dire qu'il y avait quand même pas mal de juifs qui faisaient la guerre aux Romains. D'accord ? Donc, il dit, Rabbi Akiva acceptait Bar Korva comme Mashiach, alors qu'il n'a pas fait de miracle. D'accord ?
Il n'était pas au Gekvator.
Bon, ça c'est autre chose, il faut voir. Est-ce qu'il n'était pas religieux aussi ? Il était religieux. Mais enfin, c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que Rambam, il dit très clairement, le Mashiach, ce n'est pas son rôle. Le Mashiach est un personnage politique. Il vient pour rétablir le pouvoir d'Israël sur Terre et par là, après, entraîner beaucoup de choses importantes telles que la construction du Beth Amikdash, la paix universelle, le retour de la prophétie et tout le reste. Mais ça commence d'abord par une dimension politique. D'accord ? Non, il a le droit de faire des miracles. On ne lui interdit pas. De même qu'on ne lui dit pas, par exemple, s'il doit porter une chemise bleue ou une chemise blanche. Il a le droit. Ça, c'est pas ça qui est important. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qui le désigne comme Mashiach. Imagine qu'il fasse des miracles, mais qu'il n'arrive pas à prendre le pouvoir. Zéro. Il y a des gens qui font des miracles, non ? Ça existe. Des faiseurs de miracles, ça existe. Akadosh Baruch Hu, parfois, souvent même les aime, s'ils sont capables de faire des miracles. Mais ce n'est pas le Mashiach. Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça ? Ah oui, ben pour revenir donc... Ah oui, à votre question, c'est quoi cette histoire de attendre le Mashiach, est-ce que c'est pas également quelque chose de miraculeux, hein, de...
Du tout
ou rien. Non, pas du tout, au contraire. Le Mashiach, c'est le fruit d'un processus. Et ce processus, c'est nous qui le faisons. D'ailleurs, le Mashiach, si c'est un homme, il doit bien être quelque part. dans un hôpital, dans une maternité. Il étudie quelque part. On lui a remplacé ses couches. On lui a changé ses couches. On lui a donné son biberon. Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça fait partie donc d'une certaine éducation, d'un certain milieu, d'une certaine réalité politique et sociologique. Donc, si vous voulez, le messianisme, dans le sens non chrétien du terme, est justement un processus évolutif. À tel point même que ça marche tellement bien qu'on n'a même pas besoin qu'il fasse de miracles. Vous voyez ? Et donc, d'ailleurs,
c'est qu'il y a de divin, alors, non ?
Ce qu'il y a de divin ? Ben, la nature.
C'est ça.
Ben, c'est ça le chidouche. Oui. C'est-à-dire, lors de la sortie d'Égypte, le divin se manifestait dans le miracle. La nature, donc, était évacuée. À l'époque de la fin des temps, c'est le contraire. C'est à travers la nature qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le monothéisme, ce que je viens de dire. Le monothéisme implique qu'il y a que le Créateur se manifeste dans toutes les dimensions de la réalité. Oui, allez-y.
On a dit à un certain moment que à la fin des temps, ça sera supérieur à Yetziat Mitzrayim.
Qui met Tzetrem Meretz Mitzrayim Arinu Niflot. Qui met Tzetrem Meretz Mitzrayim Arinu Niflot. Il y a un verset comme ça, c'est pas une Gemara, c'est un verset. Un verset qui dit que viendra un temps où, comme à la sortie d'Égypte, je vous montrerai des miracles. Hein, plus, bien sûr, plus. Bien sûr. Donc il y a du miraculeux. Comment est-ce que le Rambam s'arrange avec ça, hein? Bon, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il y a une marloquette dans la Gemara à ce propos aussi. Est-ce que les versets qui parlent de miracles parlent de Yemot HaMashiach ou est-ce qu'ils parlent de Triad HaMetim? Mais même si on admet dans le Pshat, il y a, ça c'est toute une étude qu'il faudrait faire, il y a une sorte de synthèse qui se fait entre la nature et le miracle à un moment. N'est-ce pas? Oui.
La mala du Machiav, de la génération du Machiav, elle sera de voir les naissances dans chaque chose. Le fait que peut-être beaucoup, il parlait qu'enfin, les familles qu'on nous parle de, qu'on verra des missiles, plus de missiles qu'il y en avait fort, il disait justement que.
On les verra en toutes choses. Bon, on peut. Bien sûr, on peut voir donc dans toutes les manifestations de la nature un miracle, je veux bien. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la définition classique du miracle. C'est une autre manière de parler de miracle. D'accord. Non, pas du tout. Quoi? On peut admettre que la nature est un miracle. C'est ce que dit le Ramban. Le Ramban dit que la foi d'Israël, c'est de considérer que toute chose est un miracle. Mais ce que l'on appelle un miracle par rapport à la nature, c'est justement, quand on dit Nes et Teva, eh bien ça veut dire que le miracle est une brisure de la nature, une faille faite dans la nature. Parce que d'après la nature, par exemple, si je lâche un objet, il tombe. D'après le miracle, si je le lâche, il ne tombe pas. Est-ce que tu veux la preuve? Est-ce que tu veux que je te montre un miracle? Tu veux? D'accord, bah alors je te montrerai pas. D'accord. Dommage, si tu n'avais pas cru, peut-être que tu aurais vu un miracle. Bon, mais c'est raté. Bon, vous rentrez dans tout un débat sur le miracle, là. Écoutez, un miracle, ce n'est que la moitié d'un miracle. Bon, et maintenant, pour revenir à notre problème de Shabtai Tzvi, là. Bon, cette idée que il y aurait dans le mal une participation, etc. Alors, il y a un enseignement très, très bien, très intéressant du Rav Harlap, le Rav Yaakov Moshe Harlap, qui disait que l'erreur de Shabtai Tzvi, c'est d'avoir pensé que parce qu'il y a un retour du fin fond des clipotes de la Kedusha qui revient à son centre, il faut que le tzaddik y tombe. Au contraire, dit le Rav Harlap, c'est parce que le tzaddik, lui, reste dans le centre de la Kedusha qu'il est capable d'observer le phénomène de ce qui se passe dans les clipotes et de lui donner un sens, une direction. Donc, au contraire, quand ce genre de processus de sortie des étincelles de sainteté, des écorces de l'impureté se produit, c'est là que les tzadikim doivent être des vrais tzadikim. D'accord? Bon, continuons. Voilà. Donc, ça, tout ça, c'était pour qu'on comprenne ce qui se passe à l'époque du Mashiach. Ça va donc mal, mais ça va mal, pas pour une raison de politique du pire, mais au contraire, parce qu'il y a des forces qui se libèrent, qui veulent participer à la Géoula.
Il y a quelque chose qui manque, cela dit, non? S'il se passe tout ça, on est quand même en Eretz Israël, non?
Tout ça, ça se passe en Eretz Israël.
Ouais, donc on est là.
Oui, alors?
Donc c'est un signe qu'il a pas cité. Le peuple d'Israël est sur sa terre, déjà.
Ça semble être une évidence.
Ouais, en route, cela arrête, on peut attendre la chia, mais on n'est pas dans le coup, là.
On n'est pas dans le coup.
Pas dans le Galil, quoi.
Oui, c'est ça, je veux dire. Ouais.
Donc attendre la chia en route, cela arrête, c'est une blague.
Bah, ça sert à rien.
D'accord, ouais, d'accord.
Quand on parle de la plupart des malheurs,
ouais.
La plupart, voilà, la totalité. quelque part, c'est des malheurs, disons, au niveau de la servitude,
les persécutions, tout ça.
Les persécutions, et on évoque, disons, second plan, les malheurs des chutes morales. Au sens, par exemple, si on parle de la sortie d'Égypte, enfin, de l'esclavage en ville, on met l'accent sur l'esclavage, et on met le fait qu'il est tombé à un niveau d'impureté au second plan. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir là une espèce d'inversion, avant l'époque du Machia, les malheurs seraient essentiellement des persécutions et des malheurs de servitude, etc. Et qu'on serait, et que, alors qu'au niveau du, à l'époque du Machia, ça irait peut-être mieux au niveau d'indépendance, etc. Mais que, à ce moment-là, on parlerait de la chute morale.
Si j'ai bien compris ta question,
là on parle de valeur morale.
Naturellement. J'essaie de comprendre ce que tu dis. D'accord ? Je vais donc le redire. Tu vas me dire si je t'ai bien compris. Tu dis comme ça. Pendant tout le temps de l'histoire, les principaux malheurs des Juifs, c'était des malheurs venus de l'extérieur. Mais au niveau moral et de la sainteté personnelle, ça allait bien. Tandis que les problèmes de l'époque messianique, c'est que c'est bien le contraire. Ça va bien sur le plan politique, mais ça va mal sur le plan moral. Voilà. C'est ça que tu dis ?
Il y avait des problèmes moraux.
Oui. Mais ils étaient au second plan.
Oui, par exemple, si on parle par exemple des abominations qui étaient faites au Beth Amidash par certains rois,
eh,
quand il y a un roi qui est venu et qui a restauré, on va dire, le culte normal, on va pas en faire une fête, par exemple.
Est-ce qu'on n'a pas fait de fête lorsque Yoshiyahu a rétabli le culte d'Akadosh Baruch Hu dans le temple?
Alors que fait des fêtes pour chaque...
Pour les libérations nationales.
Voilà. D'accord. Voilà, quasiment toutes les fêtes.
Oui, à chaque fois qu'il y a une libération, on fait une fête, oui. Et alors ?
On a été sauvés d'un massacre.
Oui, je comprends, oui. Un pourrim, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, ça passe à un second plan.
Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Et tu dis qu'à l'époque messianique, c'est le contraire. Oui. C'est-à-dire que le jour où tout le peuple juif fera teshuva...
Ici, c'est l'inversion des valeurs morales. C'est
l'inversion. Oui, mais est-ce que ce sont des malheurs ? C'est le problème.
Oui, mais on les décrit comme étant quelque chose de quand même
un peu négatif, d'accord. Mais le problème, c'est que c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai parce que c'est écrit comme ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y a d'autres textes. Par exemple, le texte que nous avons étudié la semaine dernière en haut de la page, dans lequel on parle justement des malheurs de l'époque messianique, et là-bas c'est entièrement sur le plan d'extérieur. D'accord ?
Précédé plutôt.
Là aussi, c'est ce qui précède. Dor chez Ben David Babo. C'est la génération où le fils de David doit venir. Ça précède. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. En fait, on verra, quand nous arriverons dans trois pages, au débat qui a divisé les rabbins pour savoir pourquoi est-ce que c'était effrayant de vivre à l'époque messianique. On verra que certains amenaient justement la décadence morale et d'autres amenaient les problèmes politiques. On va le voir. C'est-à-dire que c'est une marque-loquette entre les Amoraïs. D'accord ? Je ne sais pas si on peut effectivement faire ici une règle générale. Oui ? Bon. Continuons donc notre pénétrante étude. Amar Rava. C'est passionnante. Amar Rava. Là, c'est toute une petite histoire. Puisqu'on a parlé du problème de la vérité, alors il y a une parenthèse ouverte par la Guémara autour du problème de la vérité. Amar Rava, Meresh Ava Amina Leka Kushta Be'alma. Au début, je disais, dans ma première réflexion, je pensais qu'il n'y a pas de vérité dans ce monde. Meresh Amina Leka Kushta Be'alma. Je pensais qu'il n'y avait pas de vérité dans le monde.
Kushta,
ça veut dire la vérité. Hein ? Non, pas à Kol Evel, à Kol Sheker, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, tu demandes à quelqu'un quelle heure est-il, il te répond 5 heures. C'est pas vrai, c'est 5 heures et 30 secondes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais capable de dire de façon absolue la vérité parce qu'on est dans un monde où tout est mouvant et donc on ne peut jamais affirmer avec certitude quelque chose. D'accord ? C'est donc ce que disait Rava quand il était jeune, il disait « Meresh Ava Amina, Leka Kushta Be'alma ». Au début, je me disais « Il n'y a pas de vérité dans le monde ». Hein ? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est, il n'y a pas d'homme de vérité. Oui, bien sûr, évidemment, il y a une vérité, ça. Kadosh Baruch Hu émet, d'accord ? Hachem Elohim émet. Mais c'est-à-dire que dans notre monde, dire la vérité est une chose impossible. Amarli Aoum Ravanan, Virav Tavut Shme. Et j'ai parlé avec un des Chachamim qui s'appelait Rav Tavut. Ve'amrela Rav Tavyume Shme. Et d'autres disent qu'il s'appelait Rav Tavyume. C'est quoi cette histoire ? Il y a un rabbin comme ça qui s'appelle Tavut. Ça veut dire quoi Tavut ? La bonté. Et cet Tavyume, ça veut dire quoi ? Tavyume, ça veut dire une bonne journée. Oui, Yom Tov. C'est-à-dire, il y a des rabbins qui cherchent le bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a parlé avec un des rabbins qui s'appelle Bonhomme. Hein ? Il est bien celui-là. Il cherche donc le bien, la morale. Dei havu yahavele kol halale de alma lavam shane bediboure. Si on lui donnait tout ce que le monde contient, il ne mentirait pas. C'est-à-dire, c'est un rabbin qui n'est pas n'importe quoi. C'est ça que d'après le Rambam, la dimension, le niveau de vie d'Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden, c'était qu'il savait faire la différence entre le vrai et le faux. Emet v'sheker. Mais une fois qu'il a quitté le Gan Eden, il est tombé dans le subjectif, qui s'appelle Tov Vara. Et là, il y a un rabbin qui est dans le Tov Vara, puisqu'il s'appelle Tavut, mais il veut revenir à Emet v'sheker. C'est-à-dire, il veut revenir à la Madriga au niveau d'Adam Arishon. Bon, c'est pas mal. Hein ? Facile à dire. Mais lui, il était comme ça. Parce que même si on lui donnait tout ce que le monde contient, kol halale alma, lava meshane bidibouré, il n'aurait jamais menti. Zimna hada, une fois. En Belgique, une fois. Ikalae leahu atra ve kushtashme. Il est arrivé dans ce lieu qu'on appelle kushta. C'est-à-dire, c'est le lieu qu'on appelle vérité. C'est-à-dire, il est arrivé à un lieu qui s'appelle la vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un lieu. Quoi, vous y croyez vraiment qu'il y a un lieu comme ça ? On va voir. Vela vous mechane bidouburayou. Dans cette ville, les gens ne mentaient jamais. Vela hava maït, inish, mehatam belozimne. Personne ne mourait trop jeune. Tout le monde mourait bien âgé. Nasibe itaminhon. Alors, ce qu'a fait ce Rav Tavut en question, il a épousé une de leurs femmes. Vaha voulait tartin benin mina. Il en a eu deux enfants. Yomahad avayatvad vetu vekahaifa resha. Un jour, sa femme était en train de se laver la tête. Prenez sa douche. Atay shiveveta. La voisine est venue. Tarfa adasha. Elle a frappé à la porte. Vous voyez ? Dasha, c'est la porte. Ça va, l'avorahara. Il s'est dit, ce n'est pas convenable de dire qu'elle est dans sa douche. Amar la letaha, il a dit, elle n'est pas là. Shrivu letartin benin, ses deux enfants sont morts. Atu inche deatra le kame, les hommes de cet endroit sont venus le voir. Amroule maïha, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Amar le wahia avama, il va lui raconter l'histoire. Amroulé, ils lui ont dit, Bemitut Aminar, nous te prions, Pouk Meatrine, de sortir d'ici. Vela Tegare Behu Motana Banachinche, pour que tu ne nous appelles pas la mort. C'est quoi cette histoire ? Ben, c'est le récit d'Adam Arishon, en vérité. C'est-à-dire, le fait qu'il n'ait pas voulu dire que sa femme était dans la douche, c'est ce qu'il est rentré dans le problème de la subjectivité, de la gêne, de la honte. Et bien c'est ça justement le chet Adam Arishon. Au début, ils étaient nus, ils n'étaient pas honteux, ils sont tombés dans la honte. Alors c'est déjà plus un monde de vérité. D'accord ? Alors il tombe dans le Tov Vara, mais il a quitté le Emet Vashaker. C'est exactement ce que dit le Rambam dans le Moré Nevouché. Bon, et là, maintenant nous revenons. Hein ? Non, la vérité dans notre monde à nous n'est pas disable. On ne peut pas dire toujours la vérité. D'accord ? On peut.
Et dans le monde du Machia, oui ?
Dans un monde absolu, oui. Par exemple.
Ça veut dire qu'il
n'y
aura plus de call center.
Il n'y aura plus de call center. Il y a un truc tout simple. J'espère que je ne choquais personne, mais dans le livre de Shmuel, il est raconté que Shaoul a rencontré un groupe de prophètes et s'est mis à prophétiser avec eux. N'est-ce pas? C'est écrit comme ça. Shaoul rencontre un groupe de prophètes et se met à prophétiser avec eux. À tel point qu'on dit, une expression proverbiale, Hagam Shaoul Banivim. Comment? Shaoul, lui aussi, parmi les prophètes. Et là-bas, le prophète nous raconte que quand il a prophétisé, il est resté tout nu. Et les commentateurs, je crois que c'est le Ralbag qui dit, c'est parce qu'il était sous la domination de l'intelligence. Shilton Aserel. Donc tout ce qui est consécutif à la chute de l'intelligence, c'est-à-dire la gêne, ça l'a quitté. Donc il est revenu à la madriga d'Adam Arishon, d'une certaine manière.
Betchamay et Betiel, ils sont dans, si je ne me trompe pas, dans le tout bot, non?
Quoi qu'ils sont.
Est-ce que la Kala, elle est belle ou elle est pas belle? Il ne veut pas mentir,
Betchamay. Ah oui, c'est ça.
Il y a six histoires.
Oui, il y a six histoires. Bon, est-ce que... Alors justement, ça c'est très intéressant celui-là. Parce que quand on voit la Kala, à un moment, le moment où l'on découvre le visage de la mariée, c'est un retour au Gan Eden. C'est pour ça qu'on dit que ça mechacha b'yetzircha b'Gan Eden mikeden. Donc le problème de savoir, est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas à ce moment-là. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle le minhag chez les juifs, c'est de découvrir le visage de la Kala. Ce qui est contraire à la tzniout, on ne devrait pas pouvoir voir son visage. Mais on sait qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'yetzirara. Tania. On a enseigné. Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai disait. Dor chez Ben David Babo. La génération, le temps, l'époque où le fils de David doit venir. Ne'arim yalbinu penezekenim. Des jeunes feront honte aux vieux. Uzkenim yamdu lifne ne'arim. Des vieillards se lèveront face à des jeunes. Ubat kama be'ima. Une fille se révoltera contre sa mère. Vechalla bachamota. Et une bru contre sa belle-mère. Ce qui prouve que c'est nouveau. C'est-à-dire si... Non, ça, c'est important ça. C'est-à-dire si la Guémara te dit que viendra un temps où il y aura de l'effronterie, de la bru contre sa belle-mère, ça veut dire qu'en général, c'est pas comme ça. D'accord? Ufne ador kifne akelev. Et le visage de la génération sera comme le visage du chien. Ven aben mitbayesh me'aviv. Et un fils n'a pas honte de son père. Bon, c'est, tout cela, c'est la description d'un seul phénomène, le phénomène de la chutzpah, qui lui est fondamental. Où est-ce qu'on a trouvé la chutzpah déjà, pour bien comprendre le phénomène de la chutzpah, où est-ce qu'on a trouvé ça dans la Torah? Eh bien, le premier exemple, c'est chez la fille de Lot. La fille de Lot a eu un enfant de son père. Et elle l'a appelé comment? Moav. Moav. Elle était plus effrontée que sa petite sœur, qui l'a appelée Amon, Ben Ami. Mais Moav, ça veut dire, cet enfant vient de mon père. C'est-à-dire, elle publie, c'est public, cet enfant vient de mon père. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a ici un élément de chutzpah, dans Moav.
Et de vérité.
Justement, c'est la vérité sans voile. Mais est-ce qu'elle avait besoin d'en parler? Et le Mashiach, lui, vient de Moab. Puisque le Mashiach descend de David, qui vient de Ruth, qui vient de Moab. Ça veut donc dire que chez le Mashiach, la chutzpah n'empêche pas la Kedusha. C'est-à-dire quand il voit une abondance de chutzpah en Israël, eh bien, il est capable quand même de discerner la sainteté des Béné Israël malgré la chutzpah. Contrairement à Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, on avait vu un texte du Rav Kook à ce propos, qui est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu qu'il y avait de la chutzpah chez les Béné Israël, a demandé à mourir, lorsqu'ils ont demandé de la viande. Parce que pour enseigner la Torah, il faut ce qu'on appelle Bochet Panim, de la part de l'élève. C'est Bochet Panim, une certaine humilité, une certaine honte, qui permet de recevoir le contenu de la Torah qui vient de très haut. Tandis que dès que Moshe Rabbeinu, dont le métier c'est d'enseigner la Torah, a vu qu'il y avait de la chutzpah, il a dit « je ne peux pas tenir ». Et ce n'est que plus tard que. Tandis que c'est pour ça que Moshe est remplacé par le Mashiach, qui lui est capable d'affronter ça. D'accord? Vous rappelez qu'il y avait une fois une publicité pour la bière Maccabi. Maccabi, chutzpah israélite. Vous rappelez ça? Oui. Mais c'est quoi Maccabi en vérité? Mikamocha ba'elim Hashem. C'est-à-dire que derrière la chutzpah se cache une volonté de recevoir le Ol Malchut Shamayim. Certains disent que Maccabi, c'est les initiales de Mikan Bichlal Yehudi. Ça, c'est autre chose. Ouais. Et il y a donc dans... Je voudrais apporter à ce propos un élément du Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira? Il y a un midrash comme ça qui s'appelle Perek Shira, qui raconte la liste des cantiques récités par les différentes créatures. Et bon, c'est des jeux de mots là-bas. Par exemple, le cantique récité par le bœuf, c'est quoi? Ashira Lachem qui gaour gar. Et il y a là-bas le cantique des chiens. Bene Ador qui finit à Kelev. Or, les chiens sont toujours appelés, ils sont dans la tradition, sont le représentant justement de la chutzpah. Vaklavim azé nefesh. Ils sont effrontés, les chiens. Donc c'est la chutzpah de la génération. Et là-bas, après toute la liste des différents cantiques, le midrash Perek Shira finit par le cantique des chiens. C'est-à-dire ce qui se passe à la fin des temps. C'est quoi le cantique des chiens? Ben c'est Bou. Nishtachave, vinichra'a, nivrecha, lifne Hashem osen. C'est-à-dire, venons et prosternons-nous devant celui qui nous a créés. Ça veut dire que derrière la chutzpah, il y a une volonté de véritable imouna qui ne se contente pas des bondieuseries habituelles. C'est ça la chutzpah d'Ikvot Mishira. Tania, Rabbi Nehemia Omer, Dor chez Ben David Babo.
C'était pour ça justement, oui, qu'on dit que la chutzpah, c'est la recherche de la vérité en fait.
Oui.
La recherche de la vérité justement abolit un peu le Shulchan Aruch. C'est pas la vérité, ça.
C'est phagocyté par les rabbins.
Je veux, moi, c'est l'extrême vérité. Donc, il faudrait donc faire apprendre aux chilonim justement, pas du Shulchan Aruch, mais autre chose, du Rambam peut-être.
Oui, peut-être. Ils cherchent une Torah de vérité.
De vérité.
Voilà. D'accord, mais non, c'est vrai que ça se trouve dans le Shulchan Aruch.
Mais Shabbat n'était pas capable de faire ça, non?
Non.
C'est un homme de totale vérité, lui. Il n'était pas capable.
Non, c'est un homme de Torah.
De Torah.
Donc il n'accepte pas la chutzpah. Ça veut dire qu'il n'est pas assez total. C'est-à-dire que Moshe aurait dû être plus grand que ce qu'il était. D'accord? Mais il ne l'était pas. Il aurait dû revenir à la madriga d'Adam Harishon. Et donc, une partie de son rôle a été déléguée au Mashiach. D'où le tout le débat, à savoir si le Mashiach est plus grand que Moshe ou moins grand que Moshe. Oui? Il y a une moralité de la chutzpah. C'est-à-dire la révolte. Il y a une moralité de la révolte. On passe révolté, c'est pas de la révolte. Qui c'est qui a écrit? Je crois que c'est Albert Camus. Non, c'est Sartre qui a dit. On a raison de se révolter. D'accord? Alors, bien que les conséquences qu'il a voulu en tirer ne sont pas tout à fait les nôtres, mais il y a du vrai là-dedans. Parfois... Oui, mais... parfois, la grossièreté cache quelque chose. Parfois, disons, il y a un message qui ne peut s'exprimer que de manière effrontée. D'accord? D'ailleurs, mais attention, il faut bien comprendre. C'est vrai ce que vous dites là, parce qu'il y a une petite remarque que fait le Rav Kook à propos des pionniers des premières aliotes. Il dit, c'est vrai qu'ils ont de la chutzpah, mais d'un autre côté, leur chutzpah est remplie de moralité. C'est-à-dire, ils se révoltent contre des valeurs qui sont des vraies valeurs, mais au nom de valeurs. Tandis que dans les générations passées, quand quelqu'un abandonnait la Torah, c'était à cause du Yetzer Hara. Là, ça ne veut pas dire que le Yetzer Hara ne vient pas également prendre un trempe. Oui, bien sûr. Bien sûr. On devra toujours tout payer. C'est-à-dire, il y a une dialectique de ce qu'il faut payer. D'accord? Bon, après, il y a une suite, mais il est déjà l'heure de la fin du cours, alors on continuera une autre fois. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה, בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לברא ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אמן.